Eh bien, frères et sœurs, je m'émerveille toujours. Ça ne m'étonne plus, mais ça m'émerveille toujours de voir la façon dont Dieu nous parle, dont Dieu me parle. Je dois te dire qu'en ce moment, c'est pas tous les jours de tout repos et j'ai un état d'esprit un peu particulier parce que j'ai souvent l'impression d'être surmené, avec parfois même l'envie de lâcher prise sur certains projets qui me tiennent pourtant à cœur. Parce que vraiment, j'ai l'impression que le temps me manque et que je ne peux pas faire tout ce pourquoi je suis investi. Alors lorsque j'ai préparé ce message, avant ça, je me suis tourné vers le Seigneur et j'ai prié pour qu'il conduise ma plume et syndrome de la page blanche. Très honnêtement, j'ai terminé mes dernières lignes hier soir assez tardivement. Et en fait, j'ai vraiment prié pour que le Seigneur me réponde et me guide. Et puis, j'ai reçu aucune réponse. Enfin, c'est ce que je pensais, encore une fois, très naïvement. Et parce que le Seigneur écoute toujours quand on se tourne vers lui. Et oui, il répond. Alors évidemment, quand on manque de temps, on ne prend pas forcément le temps de l'écouter. Puis sa parole, elle n'est pas forcément comme dans les Écritures, aussi audible que certains prophètes l'ont entendue, et voire même aussi explicite que nous le désirerions. Mais c'est bien dans ce que je qualifiais d'absence de réponse que j'ai pu méditer sa parole et la pensée qu'il mettait dans mon cœur et dans mon esprit. Quand j'ai compris ça, alors les mots se sont enchaînés avec un message qui était assez clair finalement et que je vais partager avec vous ce matin. Cette semaine, devant toutes les activités que j'ai pu être amené à faire, prier oui, lire la Bible oui, mais écouter le message de notre frère Philippe la semaine dernière, je ne l'avais pas fait. Et donc, je l'ai fait juste après. Et puis, j'ai une petite frayeur parce que je me suis dit, mince, on va prêcher sur la même chose en fait. Mais non, je me suis surtout enthousiasmé parce que c'était une belle étude qui nous a proposé un beau message et ça me parlait puisque c'est finalement, je me suis rendu compte que le Seigneur cherche vraiment à nous délivrer une pensée construite et je pense que le message d'aujourd'hui s'inscrit pleinement dans la continuité ou dans la continuité, en tout cas, ça touche vraiment le domaine que notre frère Philippe nous a partagé la semaine dernière. Parce que oui, si la Bible nous enseigne la persévérance, le découragement est une maladie qui est universelle et qui n'affecte que les hommes. Chacun peut l'attraper, tous autant que nous sommes, même ceux qui sont le plus inscrits dans le ministère de Dieu. Et je suis sûr qu'à certains moments, et même à plusieurs reprises, chacun d'entre nous a connu ce sentiment. Peut-être même qu'à cet instant précis, certains d'entre nous sont dans l'abattement. Et quelles sont les causes de ce découragement? D'abord, c'est évident, la fatigue, qu'elle soit émotionnelle ou physique, elle fait de nous des candidats propices à cette contamination par le découragement. Lorsque nos défenses naturelles sont au plus bas, que la tâche semble toujours plus importante et que les choses nous semblent bien plus tristes qu'elles ne le sont en réalité, nous sommes tous sujets à ressentir de l'amertume ou de la lassitude. Ensuite, lorsque les travaux s'amoncellent, il est tout à fait normal de se sentir submergé. Mais lorsque des choses superflues ou inattendues nous interrompent, voire nous empêchent d'aboutir dans nos projets, nous pouvons connaître de la frustration. Et cette frustration peut facilement se transformer en abattement ou en découragement. De même, face à l'échec, il arrive fréquemment que nos projets les mieux préparés ne fonctionnent pas, que l'ouvrage s'effondre et que ça ne semble préoccuper personne à part nous. C'est très décourageant. Et enfin, la peur. Et la peur est bien plus souvent derrière le découragement qu'on ne le croit. On peut citer la peur de la critique, la peur de la responsabilité, ou encore la peur du fiasco. Il y a dans la Bible une histoire captivante qui raconte comment un individu appelé Néhémie a réussi à mobiliser les habitants de Jérusalem dans la construction d'un mur tout autour de la ville. En plein milieu de l'ouvrage, les citadins avaient perdu courage. Ils avaient envie d'abandonner pour les quatre raisons que nous venons de détailler juste avant. Et voici ce que Néhémie leur a dit pour chasser ce découragement. C'est en Néhémie 4, les versets 13 à 15. J'ai alors dit aux nobles, aux magistrats et au reste du peuple, le travail est immense et le chantier étendu, si bien que nous sommes dispersés sur la muraille, éloignés les uns des autres. Au son de la trompette, rassemblez-vous près de nous, à l'endroit où vous l'entendrez sonner, et notre Dieu combattra pour nous. Nous avons donc poursuivi le travail, la moitié des hommes gardant la lance à la main depuis le lever de l'aurore, jusqu'à l'apparition des étoiles. Pour combattre le découragement, Néhémie enjoint les citadins à prendre du repos. Bien oui, si on a besoin de le faire, prenons une pause. Nous serons bien plus efficaces quand nous nous remettrons à l'ouvrage. Ce n'est pas en brûlant la chandelle par les deux bouts qu'on sera mieux éclairé. Être découragé, ça ne signifie pas forcément que nous sommes dans l'erreur sur ce qu'il convient de faire. Mais peut-être simplement que nous faisons les bonnes choses, mais de la mauvaise manière. Il convient alors de faire le point pour réorganiser les choses et tenter une approche différente. Aussi, rappelons-nous que Dieu va nous aider. Demandons-lui simplement de renouveler notre énergie. Parce que le Seigneur a un incroyable pouvoir de motivation dans la foi, surtout quand on se tourne vers lui. En dernier lieu, résister au découragement, c'est un véritable combat contre soi-même. Si nous baissons les bras quelque part, c'est que nous en faisons le choix. Personne n'est contraint de rester dans l'abattement, et peu importe les soutiens qui s'offrent à nous, si nous ne cherchons pas à résister au découragement, nous y resterons plongés. De nombreux obstacles peuvent nous empêcher d'obéir à notre appel. Soyons sans cesse conscients que le diable guette et que s'il ne peut pas nous amener à repousser notre travail, à plus tard, il s'efforcera en tout cas de faire en sorte que nous y renoncions complètement. Pôtre aussi nous exhorte à résister au découragement. Prenons Galates, le chapitre 6, le verset 9. Ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable si nous ne nous relâchons pas. Car le découragement nous rend inefficaces. Quand nous sommes découragés, nous travaillons contre notre foi. Et il semble parfois plus facile de faire les mauvais choix que les bons. C'est aussi le sentiment qui nous fait dire « c'est impossible ». Ce qui est exactement l'inverse de « je sais que Dieu peut le faire » parce qu'il l'a dit. Quand un artiste commence une sculpture, il doit tailler la pierre patiemment. Il ne suffit pas de frapper une seule fois pour dégager toute la matière qui est en excès et faire apparaître un chef-d'œuvre. C'est bien coup de ciseau après coup de ciseau et jour après jour qu'il enlève tout ce qui est inutile. Et c'est aussi totalement vrai dans chacune de nos vies. Rien de ce qui vaut la peine n'arrive facilement. Il faut persévérer et travailler sans relâche. Peu à peu, notre vie devient un chef-d'œuvre de la grâce de Dieu. Vous savez, les personnes extraordinaires, en réalité, ce sont des gens ordinaires, mais qui ont une motivation et une détermination extraordinaires, qui n'abandonnent jamais. Connaître le découragement, ce n'est pas normal par rapport au Seigneur, mais c'est humain. Il est indispensable toutefois de ne pas rester dans cet état d'esprit, car c'est précisément les moments que convoite l'ennemi pour nous abattre. Car lorsque l'on est découragé, le Seigneur ne peut pas faire son œuvre en nous. Prenons l'exemple des espions de Canaan. Moïse a envoyé 12 hommes pour examiner le pays de la promesse. Ces 12 hommes ont vu exactement les mêmes choses. Et pourtant, ils ont des attitudes complètement différentes. Si nous prenons le livre des Nombres, chapitre 13, les versets 32 à 33. Ils dénigrèrent devant les Israélites le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout ce que nous y avons vu sont des hommes de haute taille. Nous y avons vu les géants, les descendants d'Anak qui sont issus des géants. À nos yeux et aux leurs, nous étions comme des sauterelles. » 10 de ces hommes avaient peur. Ils ont vu les difficultés, ils se sont découragés parce qu'ils ont perdu de vue le Seigneur et sa parole. Ils ont fait un rapport qui a découragé le peuple en proclamant la supériorité de l'adversaire, en ne voyant que le mauvais côté des choses et en ne se rappelant que de quelques géants plutôt que du lait et du miel. D'ailleurs, ils ne parlent pas avec vérité, mais exagèrent les difficultés. Et Dieu est totalement absent de leurs propos. Quand tout à l'heure je parlais de contamination, par le découragement, bah oui, le découragement c'est bien contagieux parce que poursuivons un peu cette lecture dans les Nombres, au chapitre 14, les versets 1 à 3. Toute l'assemblée se souleva et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les Israélites murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit : Si seulement nous étions morts en Égypte ou dans ce désert. Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Nous constatons dans ces versets que le découragement provoque les murmures face à ceux qui tiennent les promesses du Seigneur. Il crée un véritable esprit de défaitisme sur tout un peuple qui l'éloigne de Dieu et lui fait perdre sa foi dans ses promesses. Pourtant, face à ce refroidissement, deux membres de l'équipe qui avaient exploré le pays, Josué et Caleb, ont fait un rapport parfaitement encourageant. C'est toujours dans les Nombres, le chapitre 14, mais les versets 7 à 9. Ils dirent à toute l'assemblée des Israélites, « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous conduira et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne vous révoltez pas contre l'Éternel et n'ayez pas peur des habitants de ce pays, car nous n'en ferons qu'une bouchée. Ils n'ont plus de protection. Et l'Éternel est avec vous. N'ayez pas peur d'eux. » Pour Josué et Caleb, l'obéissance et la foi sont la base de leur espérance. La présence de Dieu suffit à les délivrer de la crainte. Il s'exprime au peuple pour les faire sortir de ce refroidissement, malgré le danger de se faire lapider, parce que là, le peuple n'est pas vraiment du tout en accord avec ces deux-là. Et Josué et Caleb essaient de leur expliquer que ce qui compte, ce n'est pas ce que les yeux voient, mais l'état de notre cœur et la présence de Dieu en nous. Quand nous marchons dans la présence du Seigneur et de sa parole, ce ne sont pas des obstacles qui vont nous empêcher de nous lever. En revanche, quand on ne marche pas dans sa présence, on va s'arrêter aux choses qu'on voit. On refusera de se battre et d'obéir à ce qu'il attend de nous. Nous retrouvons un autre exemple de courage par la pleine confiance de la puissance de Dieu. En 1 Samuel, au chapitre 17, les versets 32 à 37. David dit à Saül, « Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai me battre contre lui. » Saül dit à David, « Tu ne peux pas aller te battre contre ce Philistin. Tu n'es qu'un enfant, alors que lui, il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. » David dit à Saül, « Ton serviteur gardait les brebis de son père. Quand un lion ou un ours venait pour en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappai et j'arrachai la brebis de sa gueule. S'il m'attaquait, je l'attrapai à la gorge, je le frappai et je le tuai. C'est ainsi que ton serviteur a frappé le lion et l'ours, et ce sera aussi le sort de ce Philistin, de cet incirconcis, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. » David ajouta : « L'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, et il me délivrera aussi de ce Philistin. » Saül dit à David : « Vas-y donc, que l'Éternel soit avec toi. » Oui, David avait la foi. Et malgré la montagne qui semblait se dresser face à lui, il n'a pas failli. Et il a préservé les autres du découragement en les incitant à ne pas regarder à l'apparence, mais au Seigneur qui est capable de les délivrer. Ce récit nous invite à la prudence pour ne pas entrer dans la crainte, car elle est l'arme du diable pour nous faire entrer dans le découragement et l'abandon des projets que Dieu a fondés sur nous. Le but de l'adversaire de nos âmes, c'est de nous intimider, c'est de nous décourager, de nous empêcher de louer Dieu, car il ne veut pas que son royaume avance. Nous devons en être pleinement conscients pour déjouer ses ruses. Et pour ne pas sombrer, nous avons un modèle parfait en Jésus-Christ sur lequel nous appuyer. Prenons le chapitre 42 d'Ésaïe, les versets 1 à 4. Voici mon serviteur, celui que je soutiendrai, celui que j'ai choisi et qui a toute mon approbation. J'ai mis mon esprit sur lui. Il révélera le droit aux nations. Il ne criera pas. Il ne haussera pas le ton et ne fera pas entendre sa voix dans les rues. Il ne cassera pas le roseau abîmé et n'éteindra pas la mèche qui fume encore. Mais c'est en toute vérité qu'il révélera le droit. Il ne faiblira pas et ne se relâchera pas jusqu'à ce qu'il ait instauré le droit sur la terre. Les îles placeront leur attente dans sa loi. Jésus avait tant de raisons d'être lui-même découragé. À cause de l'ingratitude, un seul lépreux sur 10 le remercie. À cause de l'incompréhension de sa famille, de ses disciples. À cause de l'hostilité des Juifs qui le feront mourir. À cause du faible attachement à la croix, seules quelques femmes et gens l'accompagneront. À cause de l'incrédulité des disciples lors de sa résurrection pourtant annoncée à Pâques. Et il n'a jamais cédé. Et il nous demande de reprendre courage. Et on peut reprendre courage grâce au pardon. Matthieu 9, verset 2. Jésus dit au paralysé : « Prends courage, mon enfant. Tes péchés te sont pardonnés. » On peut aussi s'appuyer sur la guérison et le témoignage. Matthieu 9, verset 22. Jésus se tourna et dit en la voyant, une femme qui essaie de toucher la tunique de Jésus, « Prends courage, ma fille, ta foi t'a sauvée. » Et cette femme fut guérie dès ce moment. On peut reprendre courage grâce à l'appel de Christ et à son intérêt pour nous. Marc 10, verset 49. Jésus s'arrêta et dit : Appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant : Prends courage, lève-toi, il t'appelle. On peut reprendre courage car Jésus est notre victoire. Jean 16, verset 33. Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Il faut reprendre courage pour continuer à rendre un témoignage. Acte 23, le verset 11. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit : Prends courage, Paul. De même que tu as rendu témoignage de ce qui me concerne à Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage à Rome. Nous pouvons également nous retrouver le courage en nous rappelant les paroles que l'Éternel a dites à Josué et que nous pouvons complètement nous approprier. Et d'ailleurs, ce passage a déjà été lu la semaine dernière, un peu plus longuement. Moi, je le débute, c'est dans Josué, chapitre 1. Je débute à partir du verset 5 jusqu'au verset 9. Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse et je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Seulement, fortifie-toi et aie bon courage en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche, afin de réussir où que tu ailles. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage ? Ne sois pas effrayé ni épouvanté. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi où que tu ailles. Enfin, nous pouvons retrouver du courage par la communion fraternelle. Et nous avons deux exemples où, avec l'apôtre Paul, comme quand il a été battu à mort et qu'il reprend vie grâce aux frères qui l'entourent, c'est dans Actes 14, les versets 19 et 20. Alors arrivèrent d'Antioche et d'Iconium des Juifs qui gagnèrent la foule. Après avoir lapidé Paul, ils le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Cependant, quand les disciples l'entourèrent, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Un autre exemple, c'est quand Paul est prisonnier à Rome et que la vue de ses frères lui redonne courage. Acte 28, au verset 15. Les frères de Rome, qui avaient reçu de nos nouvelles, sont venus à notre rencontre jusqu'au forum d'Appius et aux trois tavernes. En les voyant, Paul a remercié Dieu et pris courage. Oui, être entouré de ses frères, c'est ça qui nous aide à avancer, à ne pas sombrer dans cette sinistrose de la solitude. Et puis, parfois, il suffit aussi de quelqu'un pour nous aider à porter un fardeau qui nous semble parfois si lourd, puisque le Seigneur sait, la tâche est immense, la tâche est rude, mais il nous donne les moyens de continuer d'avancer. Mais il faut nous appuyer sur lui, ne jamais le perdre de vue. Et toujours avoir en tête que l'adversaire veut nous décourager pour que nous arrêtions notre travail et notre marche vers la gloire. Mais par son esprit, par sa présence, sa parole, Dieu cherche toujours à nous encourager. Et nous aussi cherchons à toujours nous encourager mutuellement. Amen.